Eh bien, bonjour. J'ai l'impression de recommencer un cycle d'une année, puisque ça fait 15 ans que le premier mardi de janvier, j'inaugure mon cours de l'année. Et donc, je ne sais pas très bien si c'est une fin ou un début. Mais le propre de toute fin, c'est qu'elle peut être aussi un début. Pour certains, l'apocalypse, c'est la fin du monde. Et pour d'autres, c'est le début d'un autre monde, n'est-ce pas? C'est un éternel retour. En tout cas, je commençais traditionnellement en vous disant mes vœux pour la nouvelle année. Et vous êtes là en petit comité, mais je vous l'ai dit avec la même sincérité. C'est un peu étrange de reprendre ce cours après un entracte qui a duré 10 mois, mais je suis tout de même heureux de vous retrouver dans cet amphi, un peu vide, hein, mais vous êtes là et il y a des situations bien pires pour d'autres. Alors, j'ai donné le dernier cours le mardi 10 mars et 2 jours plus tard, on nous a annoncé que nous serions confinés le mardi 17 mars. Nous nous sommes séparés pour 15 jours renouvelables et qui ont été renouvelés depuis lors. Hein, et donc, l'entracte s'est prolongé jusqu'au 5 janvier 2021 et je vais faire le cours du 17 mars dernier. Entre-temps, vous le savez, j'ai été atteint par la liste qu'on appelle la limite d'âge, hein, et je suis donc désormais un professeur à la retraite. Hein, et j'avais entamé ce cycle de cours sur les fins de la littérature en me doutant un peu que ce serait le dernier cycle, la dernière roue qui tourne. Mais je n'en avais pas la totale certitude, je n'en étais pas convaincu à 100%. Mais c'est bien le cas, et cela confirme que j'avais raison de m'interroger sur la cessation d'activité, sur le style tardif, hein, qui était l'objet de nombreuses des leçons, entre janvier et mars dernier, sur la sénilité et la sublimité, hein, et sur ce que j'avais appelé le sublime sénile, que certains artistes en fin de carrière parviennent à rejoindre. On s'était interrogé aussi sur les effets distincts du vieillissement chez les artistes conceptuels et chez les artistes expérimentateurs, hein, qu'il s'agisse de peintres ou d'écrivains. Bon, voilà l'ensemble des questions que nous avions examinées entre janvier et mars dernier. Je les rappelle très rapidement à partir d'un certain nombre de philosophes, d'historiens de l'art, d'écrivains, de peintres, Georg Simmel, Adorno, Hofmannsthal, Brock, Barrès, Gide, Barthes, Sartre, quelques-uns des noms qui nous avaient servi dans cette exploration. Ainsi, depuis ce dernier rendez-vous, je suis moi-même entré dans la dernière partie de la vie, hein, et j'avais distingué l'année dernière Senectus et Decrepitas, hein, comme les dernières étapes de ce moment de la vie. J'ai pu réfléchir. Le confinement, les couvre-feux, tout cela m'a donné le loisir de penser à la manière d'occuper ce moment qui vient. Pour la leçon que j'avais prévue pour le 17 mars, dans ce cours sur les fins de la littérature, j'avais promis d'en venir enfin à la vie transée de Chateaubriand. J'avais retardé longtemps de l'aborder. J'annonçais cette leçon chaque mardi pour le suivant. Et ma procrastination a été punie par la pandémie, ou plutôt, vous avez été puni de ma procrastination si vous attendiez cette leçon, et je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Je ne suis pas certain que si le cours s'était déroulé comme il aurait dû, j'aurais vraiment parlé de la vie de Rancée le 17 mars, j'aurais peut-être encore procrastiné, encore retardé, mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne suis même pas très certain qu'il y aura encore un cours la semaine prochaine. Hein, si on nous menace de mesures encore plus drastiques, je me suis dit qu'il fallait que je saute sur cette occasion pour parler de la vie de Rancée, puisqu'elle était donnée et que peut-être c'était vraiment la dernière. Alors, après avoir beaucoup parlé de janvier à mars dernier, du Spätstil, du style tardif, du late style, de l'alter style, du old age style, ou encore de ce que j'avais appelé le sublime sénile, comme affranchissement, émancipation, délivrance. C'est délivrance au dernier moment chez un écrivain, chez un peintre, chez un musicien, qui relâche les conventions qu'il a lui-même contribué à édifier. Et c'est de ça qu'il était question, dans cette sorte de sublimité du dernier moment, qui faisait des ultima verba, qui transcendait en somme toute l'œuvre. Et on avait observé qu'il y avait là une sorte de trinité d'artistes qui représentait ce sublime sénile, avec Goethe, Beethoven et Rembrandt, hein, le second Faust, les derniers quatuors et les derniers autoportraits de Rembrandt. C'étaient les œuvres exemplaires. On avait un peu réfléchi au fait qu'il n'y avait pas d'œuvres appartenant au canon français, hein, dans cette affaire du style tardif. Et il était temps, me semble-t-il, de nous demander si l'on pouvait parler d'un style tardif dans le cas de Chateaubriand, et accessoirement, si ce style se situait du côté du sénile ou du côté du sublime ou du côté du sublime-sénile, selon cette alliance de termes qui définirait le style tardif ou le style de vieillesse quand il mérite véritablement cette appellation. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop perdu pour attendre, mais voici ce que je voudrais en dire. Première observation sur ce style tardif de Chateaubriand, il me semble qu'on peut dire que c'est un style conversationnel ou conversationniste, caractérisé par une très grande liberté, une quasi-totale liberté d'association. Et c'est ainsi que la vie de Rancée sera qualifiée de bric-à-brac par Sainte-Beuve. C'est l'une de ces qualifications de Sainte-Beuve qui pèseront longtemps sur cette œuvre et la rendront marginale jusqu'à que nous la réévaluons. Alors, Sainte-Beuve disait cela sous couvert de l'anonymat. C'était dans la revue suisse où il tenait une chronique qui n'était pas signée. Ce style oral, décousu, j'aimerais l'appeler désultoire, parce que ces 10 mois de parenthèse m'ont permis de faire quelques lectures, et notamment celle du journal de Gide, et c'est lui qui adopte le desultory anglais, très ordinaire, en désultoire, pour caractériser ce style sautillant, voltigeant, qui est le sien dans son journal, allant très librement d'un sujet à l'autre, comme un désultor. Le désultor, en latin, c'est le voltigeur, c'est le funambule, c'est d'une certaine façon aussi le saltimbanque par lequel j'avais commencé le cours il y a tout juste un an. Dans le désaltéré, il y a non seulement le sautillement, il y a aussi l'illusion. Le saltimbanque qui fait illusion, qui est un illusionniste. Alors, ce style désultoire de Chateaubriand, eh bien, on en a un témoignage oral auquel je voudrais venir pour commencer, puisqu'il impressionna vivement l'un de ses visiteurs à l'époque de la vie de Rancé, un peu après, entre la vie de Rancé en 1844 et la mort de Chateaubriand en 1848. Ce visiteur, bon, ça rentre dans ce genre bien connu de la visite au grand écrivain, de la visite au vieil écrivain. Eh bien, ce visiteur, c'est Eugène Manuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Eugène Manuel, j'en ai sûrement déjà parlé, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup intéressé. Eugène Manuel rendit visite à Chateaubriand le 1er janvier 1846. Oui, à mi-chemin entre la vie de Rancé et la mort de Chateaubriand, dans son rez-de-chaussée de la rue du Bac. Et il raconta aussitôt sa visite à un ami de son âge. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on a cette lettre d'Eugène Manuel du 1er janvier 1846 où il raconte sa visite à Chateaubriand. Et puis on a un récit de cette visite qui est fait en 1895. 50 ans plus tard. Évidemment, les choses ont beaucoup changé entre 1846 et 1895, et sa vision de Chateaubriand en 1895, c'est un récit beaucoup plus long, avec beaucoup plus de détails, qui ne correspondent sans doute pas nécessairement aux souvenirs, et aussi beaucoup d'amendements, puisqu'il n'a plus le même émerveillement devant le vieil écrivain. En 1846, quand Eugène Manuel rend visite à Chateaubriand, il est élève à l'École normale supérieure. Bon, ensuite, il deviendra professeur, c'est un poète républicain, c'est le chef de cabinet de Jules Simon en 1870, lorsque le Second Empire tombe, et puis c'est un inspecteur général de l'instruction publique. Donc c'est un notable de la Troisième République, bon, c'est un homme qui est donc hostile à l'Empire sous le Second Empire. Bon, il a sa rue dans le 16e arrondissement. Et en 1846, il est donc charmé lorsqu'il rend visite au grand écrivain. En 1895, les souvenirs seront beaucoup plus mitigés. S'il se rendit chez Chateaubriand le 1er janvier 1846, ce fut afin de respecter une tradition qui voulait que les normaliens remettent leurs vœux aux grands écrivains le jour de l'an. Je crois que c'est un usage qui s'est perdu, c'est regrettable, de même que l'usage de déposer des cartes, puisque c'était ce qu'ils faisaient, c'était le plus souvent déposer des cartes. Bon, on se demande à qui ils auraient déposé des cartes aujourd'hui. Les cartes ont disparu, de même que les vœux. La liste est intéressante. En 1846, ça donne une idée des goûts des jeunes gens, des normaliens sous Charles X, juste avant la Révolution de Juillet. Les trois premiers qui ont été retenus par les normaliens à l'unanimité, ce sont Chateaubriand, Lamartine et Béranger. C'est en délicatesse avec le régime en 1846, que ce soit avec Chateaubriand du côté des monarchistes des Bourbons et avec Lamartine ou Béranger du côté des républicains. Puis après, il y a eu une longue discussion entre les élèves pour savoir à qui ils remettraient des vœux, et c'est une liste un peu moins cohérente, où on trouve Lamennais, Hugo, Thiers, Michelet et Quinet, qui reçurent leurs cartes. Eugène Manuel a eu le gros lot, la visite à Châteaubriant, et accompagné d'un condisciple, il se rendit donc chez celui qu'il appelle le plus illustre des auteurs vivants, vieilli sans doute, mais non déchu. Et voilà cette visite, et la version de 95 montre qu'il... la version de 1895 montre qu'il est alors revenu de ses passions de 20 ans, et voici ce qu'il dit lorsqu'il raconte la visite 50 ans après. Nous ignorions les faiblesses de l'homme, surtout celles qui, vers la soixantaine, lui avaient procuré l'illusion sénile d'un rejeunissement sans dignité ni vraisemblance. Alors voilà qu'on a donc tout de suite ce rajeunissement factice de Chateaubriand et cette sénilité réelle. Le commentaire peut paraître peu généreux, sensible en tout cas au sénile, plus qu'au sublime chez le grand écrivain, mais je vous le rappelle, c'est 50 ans après. Alors, qu'est-ce que c'est que cette illusion sénile de ces 60 ans ? Je pense que c'est moins le soutien à la cause de la duchesse de Berry en 1832 que toutes les révélations qui ont été faites dans la seconde moitié du 19e siècle et vers la fin du 19e siècle sur les amis de Chateaubriand et sur ses égarements de vieillard et probablement son dernier amour, l'Occitanienne de 1829, qui est ainsi évoquée dans les Mémoires d'Outre-Tombe. « J'allais rendre ma visite respectueuse à la naïade du torrent. Un soir qu'elle m'accompagnait lorsque je me retirais, elle me voulut suivre, je fus obligé de la reporter chez elle dans mes bras. » C'est ce qu'il prétend dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Il se vante d'avoir que cette jeune femme ait voulu l'accompagner et qu'il ait dû la repousser. C'est une insinuation contre laquelle la jeune femme devait plus tard beaucoup protester en disant que, parce qu'elle était identifiée, bien sûr, et elle disait que Chateaubriand s'était fait beaucoup d'idées. Et c'est une aventure que, justement, Sainte-Beuve a beaucoup glosé dans un lundi de 1862, qui est aussi à l'écran. Un hasard heureux me met à même de faire ici un rapprochement assez inattendu. Dans une page déchirée des Mémoires d'Outre-Tombe que le vent m'apporte par ma fenêtre entrouverte, je trouve un aveu, un refus presque pareil, bien que sur un tout autre ton, une confession où se peint une fois de plus cette passionnée et délirante nature de René. Et le texte en question est connu sous le nom de Confession délirante, en raison de sa présentation par Sainte-Beuve. C'est un manuscrit qui est en effet une longue adresse nostalgique du vieil homme à une jeune fille. Elle sera publiée plus tard sous le titre de « Amour et vieillesse ». Et en voici un passage, le passage du manuscrit auquel fait référence Sainte-Beuve, qui lui a été apporté. Ce manuscrit qui sans doute avait été subtilisé à Chateaubriand au vieux Chateaubriand par l'un de ses secrétaires. Objet charmant, je t'adore, mais je ne t'accepte pas. Va chercher le jeune homme dont les bras peuvent s'entrelacer au tien avec grâce, mais ne me le dis pas. Oh non, non, ne viens plus me tenter. Songe que tu dois me survivre, que tu seras encore longtemps jeune, quand je ne serai plus. C'est donc cette aventure improbable de Chateaubriand, dont on ne sait pas très bien si c'est une fiction ou un souvenir authentique, que cet amour de vieillesse qu'Eugène Manuel qualifie, donc après coup, d'illusion sénile. Situant donc un Chateaubriand de 1844-1846 dans cette facticité de la jeunesse dans ses relations avec ces jeunes femmes. Or, cette confession délirante, ce manuscrit de la Bibliothèque nationale, subtilisé par un secrétaire, est mêlé à diverses notes pour la vie de Rancé, autre modèle d'épanchement sénile selon Sainte-Beuve. Ainsi, le portrait que Manuel trace du vieil écrivain devient très réprobateur avec le temps. En 1846, il écrit dans sa lettre immédiate « Il est vieux, très vieux ». 50 ans plus tard, il écrit « Il était vieux, et comme honteux de l'être ». Il faut ajouter que Manuel, en 1895, il a l'âge qu'avait Chateaubriand 50 ans plus tôt, et c'est donc un tout autre rapport. Il avait 20 ans à la première visite, il en a plus de 70 quand il raconte ses souvenirs. En 1946, le jeune homme était tout impressionné par l'écrivain qui, désœuvré, reçut très longuement, trop longuement, les deux jeunes gens. Il comptait simplement déposer une carte, mais Chateaubriand les garda toute la matinée du 1er janvier. Ils s'étonnèrent d'être accueillis avec tant de bienveillance. Il ne lui reste de beau que ses grands yeux bleus qui se mouillent facilement de larmes, disent-ils. C'est ce que l'on raconte aussi de toutes les visites au vieux Goethe, avec ses yeux bleus mouillés de larmes. Avant d'en venir à leur conversation, voici Eugène Manuel par Léopold Flamand et son récit de 1846, le récit immédiat. Il nous a parlé voyage, politique, religion, littérature, un peu de tout. Nous avons causé de Napoléon, de la Révolution française, de Velléda, de 1830, du Globe, de M. de Rémusat, qui était venu lui demander sa voix, de M. Dubois, qui avait été son ami, de M. Lenormand, qu'il voyait à l'abbaye au bois, du gouvernement actuel, qui faisait son pot-au-feu, du passé, de l'avenir, des vieux et des jeunes, de nos triomphes et de nos fautes, un peu de tout, enfin, un peu de tout, vous dis-je. Vous voyez ce désordre de la conversation avec Chateaubriand, ce qui frappe avant tout ces jeunes gens chez le vieillard, solitaire et oisif, c'est bien ce bavardage, sautant d'un sujet à l'autre comme au hasard, cette sorte de logorée désultoire ou d'incontinence verbale qui mêle les époques et les régimes politiques, qui met toutes les époques sur le même plan, cette sorte d'équivalence du temps passé que donne l'âge, comme s'il était contemporain de tout le siècle. Le récit rétrospectif sera beaucoup moins émerveillé, analysera ce fonctionnement de la mémoire. Il trouvait moyen de rattacher par un fil ténu ses impressions, ses jugements, ses souvenirs rapides, qui semblaient prendre plaisir à faire passer sous nos yeux dans un désordre factice, et nous avions peine à le suivre comme en une étrange table des matières de toutes ses œuvres. Un mot, un geste de nous amenait un trait inattendu, une esquisse nouvelle. Et qui cherche à comprendre le fonctionnement de cette mémoire, ce désordre factice, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est le désordre d'un poseur ou bien qu'il y a un ordre souterrain sous ce désordre et qu'il traverse toute son œuvre à travers cette table des matières. Le jeune Eugène Manuel se contentait d'admirer cette sorte de vision panoramique du vieillard qui passe du coq à l'âne, en suivant le fil secret de ses pensées, vagabondant dans sa vie et son œuvre. Et c'est aussi cette nostalgie qui émouvait le jeune homme, hein, parlant. Cet homme, c'est le jeune homme qui parle, cet homme qui a reçu tant et de si grands éloges de la part de tant de personnages illustres, nos éloges l'ont ravi et lui ont peut-être donné encore une journée de bonheur. Il les repoussait avec une modestie douce qui semblait ne pas les haïr. Je ne mérite pas tout cela, vous me jugez avec trop d'indulgence, je suis d'un autre siècle, on ne me lit plus. Je lui ai répondu, vous êtes notre père à tous, nos poètes sont vos enfants, vous êtes de notre temps et de notre âge. Et il a souri d'un sourire de joie. Vous voyez que le témoignage donné sur le champ par le jeune visiteur donne la mesure de sa surprise et de l'immense effet que fit sur lui le grand homme. « Quand je vous verrai, dit-il à son camarade, je vous raconterai plus au long cette conversation, car elle n'est pas de celle qu'on oublie. Nous le laissions dire de peur qu'une de nos paroles nous fît perdre une des siennes. Il a eu un moment de profonde tristesse en nous parlant de son passé, de ses regrets, de sa devise, liberté et royauté, de la monarchie légitime tombée si bas, et voyageant d'exil en exil, il désire mourir, il en a assez, il s'étonne que depuis longtemps la mort ne l'ait pas prise au mot, il trouve du reste que la vie est trop courte pour la penser, il est là d'écrire, à son âge, on ne peut plus que rêver. » Chateaubriand a 77 ans lors de cette visite, et Manuel ajoutera en 1895, « Et comme nous lui disions qu'il avait publié récemment encore de belles pages, nous pensions à la vie de Rancé, je suis là d'écrire, nous dit-il. Et qui sait si je n'ai pas beaucoup trop écrit ?» Bon, vous voyez qu'on a là une sorte de séduction en 1846 avec les mêmes éléments et une déception rétrospective. Qu'éprouvions-nous ? Un étonnement, un trouble, un chagrin, un mécompte. Et on peut sans doute attribuer la déception au temps qui est passé. Le comportement de Chateaubriand est désormais condamné pour son artifice et sa facticité, conformément à la réputation de vieil acteur qui lui a été faite entre-temps. Hein ? L'appareil théâtral était trop visible, dit-il. C'est du théâtre, Chateaubriand. Hein ? Nous supposions... Nous supposions une vieillesse calme, apaisée, nous trouvions un vieillard inquiet, mécontent. Et ça ne correspond pas à l'image de la vieillesse que l'on attend. Chateaubriand n'était pas serein, mais révolté. Mais n'est-ce pas justement la condition qui donne accès au style tardif ou au sublime sénile ? Méfions-nous des souvenirs, hein, encore une fois, car la désillusion n'était pas présente dans la lettre initiale. Et le récit de la visite est éclairé par tout ce que Manuel a lu sur Chateaubriand entre-temps, notamment chez Sainte-Beuve, dans Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire. C'est là que les traits ridicules du grand homme que Sainte-Beuve rapportait trouvent leur source chez Manuel, qui parle, par exemple, chez Chateaubriand, du masque mal attaché Il a toujours un masque, et le masque est mal attaché. En vérité, Sainte-Beuve parlait de masque arraché et non attaché, mais c'est bien de lui que vient l'image, ou cette allusion qui revient souvent à la cellule sur un théâtre. C'est Chateaubriand qui, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, visitant le couvent de Murano, avait dit « Donnez-moi, je vous prie, une cellule pour achever mes mémoires ». Et il y a un mot très célèbre de Salvandi qui avait dit « Oui, une cellule sur un théâtre ». Chateaubriand, c'est la cellule sur un théâtre. Donc tous ces traits sont là pour modifier l'image de Chateaubriand et le tourner du côté du ridicule et du théâtral. Je vous le disais, c'est le genre de la visite au grand écrivain, le premier récit, pourrait-on dire, penche vers le sublime, le second, après un demi-siècle, tire franchement vers le sénile. Mais tous deux tournent autour de la même phrase que vous avez vue apparaître, Chateaubriand est là d'écrire. C'est ce mot qui a frappé le jeune homme, et c'est ce mot que le vieux notable reprend. Chateaubriand ne dit pas qu'il n'écrit plus, mais qu'il est là d'écrire. En vérité, il écrit encore, puisque l'avant-propos des Mémoires d'Outre-Tombe date d'avril-mai 1846. Donc, juste après cette visite, avant-propos dans lequel Chateaubriand, non sans humour, dit qu'il voudrait bien ressusciter une nuit pour corriger les épreuves des Mémoires d'Outre-Tombe. Mais ce qu'il y a de pathétique, c'est cet écrivain là d'écrire et qui n'a échappé ni au normalien de 20 ans, en dépit du charme du vieil homme, ni au notable qui racontera la visite 50 ans plus tard. J'évoquais la visite à Goethe. Il y a de nombreux récits des visites à Goethe, hein, qui est bien entendu le parangon de la sublimité sénile. Eh bien, ces visites à la fin de la vie de Goethe, dans les dernières années, ressemblaient beaucoup à celles-ci. Et avec le même pathétique, l'une des dernières, c'est celle de Saint-Marc Girardin en 1830, 2 ans avant la mort de Goethe, qui écrit « Quand je visitais Goethe, quand je voyais ce front encore majestueux mais qui semblait fatigué de pensée, ses yeux qui commençaient à pâlir, cette bouche qui n'avait plus ni sa vivacité ni son expression première, eh bien, il en concluait, comme toute la ville de Weimar, que Goethe ne pouvait pas vivre longtemps encore. » Le portrait de Chateaubriand déchu, celui donc de l'époque de la vie de Rancé, pourrait aussi être comparé avec le récit que j'avais fait dans l'un des cours de l'année dernière sur la déchéance de Sartre, telle qu'elle est racontée par Simone de Beauvoir dans la cérémonie des adieux. Mais voyez que cela nous donne, au fond, l'alternative suivant laquelle nous pouvons aborder l'œuvre ultime, ou dans la proximité de la visite de 1846, ou dans la distance du récit de 1895, mais ai-je envie de dire, des deux côtés, dans l'illusion. Il y a une sorte d'illusion rétrospective inévitable, une sorte de réflexe quasi irrépressible qui nous fait traiter différemment les œuvres ultimes des artistes. Nous lisons forcément la vie de Rancé comme une œuvre de vieillesse, avec un style de vieillesse, un style tardif, à l'image de cet admirable tremblement du temps que Chateaubriand repérait dans l'hiver de Poussin. Après, l'admirable défaut du temps dans le brouillon que voici transcrit par un secrétaire dans cette même liasse manuscrite où il y a la confession délirante d'un dernier amour de Chateaubriand. La lecture que les contemporains ont faite de la vie de Rancée et qui ignorait que ce livre serait le dernier à paraître du vivant de Chateaubriand ne fut pas affectée par ce préjugé de l'œuvre testamentaire et en conséquence, elle fut beaucoup moins bienveillante que la nôtre. Ils se montrèrent en général assez sévères, malgré tous les égards dus à l'écrivain vénérable. Et la vie de Rancée fut longtemps un livre négligé. Vous vous souvenez d'André Beaunier, contemporain de Proust, métamorphosant la probable coquille du voculaire, il ferait le voculaire des paroles fatidiques. Le registre des derniers mots, est-ce une coquille, voculaire pour vocabulaire, ou est-ce le recueil des dernières paroles, des ultima verba, des paroles fatidiques, des voces, des mourants. André Beaunier métamorphosait la probable coquille en une merveille poétique et il fut bien l'un des premiers à réhabiliter Rancée. Si Chateaubriand, écrivant la vie de Rancée en 1843 et 1844, se montra tellement sensible à cette main infirme de Poussin, alors qu'il n'en avait pas encore été jamais question dans son œuvre, c'est que la présence de Poussin était intimement liée à un moment capital de la vie de Chateaubriand et même à deux moments essentiels. Durant son séjour à Rome comme ambassadeur en 1828 et 1829, Chateaubriand, sur commande de Madame Récamier, fit construire un monument à Poussin que vous avez à droite sur l'image, dans l'église de sa paroisse où le peintre était modestement enterré, San Lorenzo in Lucina. Donc il n'y avait jamais eu de monument à Poussin et Poussin n'en voulait pas et depuis un siècle et demi, personne n'avait élevé de stèle à Poussin là où il était enterré. Lors de son premier séjour romain, lorsque Chateaubriand était un jeune attaché d'ambassade en 1803 et 1804, j'ai parlé de cela puisque c'est durant ce séjour que Pauline de Beaumont, que vous avez à gauche sur l'écran, est morte dans ses bras et il lui avait élevé le monument qui est au milieu à Saint-Louis des Français. Et que les deux séjours de Chateaubriand à Rome, en 1803 et en 1828, sont associés à une stèle, un monument funéraire à Pauline de Beaumont en 1803-1804, à Poussin en 1828-1829. Il y a une relation au deuil et à la mort. Poussin est associé à Rome, au deuil, aux ruines et à la mélancolie. Juste après la mort de Madame de Beaumont, Chateaubriand décrit dans ses lettres le monument auquel il songe, par exemple dans une lettre à Madame de Staël qui est là, « Maintenant, toute ma joie est un tombeau que je fais élever et pour lequel je vends le peu de choses qui me restaient au monde. » Et ce projet de tombeau pour Madame de Beaumont coïncide par sa date avec la décision confiée dans une lettre à Joubert d'écrire les mémoires pour trouver, dit-il, de l'adoucissement à mes peines. Ces deux lettres qui sont exactement contemporaines, la première à Madame de Staël, la deuxième à Joubert, c'est aussi à Rome que je conçus, ça c'est ce qu'il en dit dans les Mémoires d'Outre-Tombe, que je conçus pour la première fois l'idée d'écrire les mémoires de ma vie. Dans une lettre à M. Joubert, j'esquissais ainsi mon plan. Mon seul bonheur est d'attraper quelques heures pendant lesquelles je m'occupe d'un ouvrage qui peut seul apporter de l'adoucissement à mes peines. Ce sont les mémoires de ma vie. Autrement dit, le monument de pierre à Madame de Maumont et le monument de papier, les mémoires d'Outre-Tombe, ont été conçus en même temps, aussitôt après la mort de Madame de Beaumont, pour défier l'oubli, et ils sont inséparables. Au moment où, après la mort de son ami, Chateaubriand quitte Rome pour voyager en Italie et se distraire de son deuil, il écrit, donc c'est tout l'ensemble des lettres qui coïncident avec ce deuil, il écrit à son ami Fontane, ce qui achève de rendre notre vie le songe du nombre. Bon, le songe du nombre est en italique, c'est une citation de Pindare. C'est que nous ne pouvons pas même espérer de vivre longtemps dans le souvenir de nos amis, puisque leur cœur où s'est gravée notre image est comme l'objet dont il retient les traits, une argile sujette à se dissoudre. Vous voyez que il y a ce caractère éphémère de la mémoire des hommes qui fait qu'il faut élever un monument de pierre et un monument de papier. Et cette réflexion vient, cette réflexion sur la fragilité de la mémoire, vient après la visite à Pompéi. Pompéi qui, dans ces années 1803-1804, est un nouveau lieu du tourisme. On m'a montré, c'est la même lettre qui continue, on m'a montré à Portici un morceau de cendre du Vésuve, friable au toucher et qui conserve l'empreinte, chaque jour plus effacée, du sein et du bras d'une jeune femme ensevelie sous les ruines de Pompeia. C'est une image assez juste, bien qu'elle ne soit pas encore assez vaine de la trace que notre mémoire laisse dans le cœur des hommes, cendre et poussière. La pierre et les mots fourniront donc des monuments plus durables. Vous voyez qu'il y a cette rencontre entre Madame de Beaumont au cours du séjour de 1803, Poussin au cours du séjour de 1828, et le même paysage romain avec ses ruines, ses fouilles, qui sert à l'édification de ces deux monuments funéraires. C'est la mémoire de Poussin que Chateaubriand entend perpétuer lorsqu'il écrit à Madame Récamier « Ruine, santé, perte de toute illusion, tout me dit, va-t'en, retire-toi, fini. Je ne trouve au bout de ma journée que vous. » Vous avez désiré que je marquasse mon passage à Rome, c'est fait. Le tombeau du Poussin restera. Il portera cette inscription. Chateaubriand à Nicolas Poussin, pour la gloire des arts et l'honneur de la France. Qu'ai-je maintenant à faire ici? Rien, surtout après avoir souscrit pour la somme de 100 ducats au monument de l'homme que vous aimez le plus. Dites-vous, après moi, le Tasse. L'identification de Chateaubriand, âgé de 75 ans lors de la rédaction de La Vie de Rancé, à Poussin, qui avait 71 ans lors de sa mort à Rome en 1665, est suggérée par la dénégation même quand l'écrivain écrit, hein, c'est l'avertissement de La Vie de Rancé, « Je ne suis pas Poussin ». Pour la décoration de ce monument, le choix de Chateaubriand s'est porté sur, vous l'avez vu, là, à droite, un bas-relief qui reproduit le tableau de Poussin, « Et in Arcadia ego », les bergers d'Arcadie ou le bonheur soumis à la mort. Ce tableau du Louvre, qui est inspiré d'un tableau de Guerchin à gauche et dont Poussin avait déjà fait une première version un peu plus tôt. Il s'agit donc d'un memento mori, d'une vanité, d'un dialogue avec la mort, devant une stèle qui porte l'inscription « Et in Arcadia ego ». L'œuvre est particulièrement appropriée. Ego, ego, qui est ego dans la citation latine, c'est la mort qui règne même en Arcadie. Ou bien c'est l'homme qui a vécu en Arcadie avant d'être dans son tombeau. L'image, c'est donc une vanité, mais par une sorte de double sens. C'est aussi une allégorie de la naissance de la peinture. Autrement dit, c'est à la fois la mort et la rédemption, puisque vous le voyez sur l'image, un berger montre du doigt l'ombre de son compagnon sur la pierre de la stèle où se trouve l'inscription « Et in Arcadia ego ». L'ombre, conformément à la leçon de Pline dans son Histoire naturelle, c'est l'origine de la peinture. Pline écrivait « Parmi les Grecs, les uns disent que la peinture fut découverte à Sicone, les autres à Corinthe, tous convenant que les commencements en furent de circonscrire par une ligne l'ombre d'un homme. » Le monument, le tableau de Poussin et le monument de Chateaubriand qui reproduit ce tableau lient donc l'origine de la peinture à la mort. L'art et la mort, mais aussi la naissance de l'art à l'ombre sur le tombeau. Et vous vous souvenez de la citation de Pindare que Chateaubriand faisait, que je citais à l'instant, le songe d'une ombre, ainsi que Chateaubriand résumait la vie avec Pindare, qui renvoie à la fois à la mort et à l'art, à la renaissance par l'art et au cycle, à la circularité des saisons. On connaît un portrait de Rancé. Ce portrait a une certaine importance, y compris dans la vie de Rancé. C'est le portrait par Hippolyte Rigaud que voici à gauche, peint en 1696-1697, donc quelques années avant la mort de Rancé, alors qu'il était retiré à la trappe. Bon, il y a plusieurs copies de ce tableau, à gauche. Il paraît qu'il y en a une à la trappe. Je suis allé la semaine dernière à la trappe, mardi dernier, justement, en pensant que je devais voir la trappe avant de faire un cours sur la trappe. J'ai été très déçu, comme Eugène Manuel rendant visite à Chateaubriand. J'étais très déçu parce que ce n'est évidemment plus la trappe de Chateaubriand dont il ne reste rien, et ni celle de Rancé, mais c'est une trappe qui a été construite vers 1895, justement, les bâtiments. Et je n'ai pas eu accès à la chambre de l'abbé où se trouve peut-être une copie de ce tableau. En tout cas, ce tableau a toute une histoire, et cette histoire est racontée dans les mémoires de Saint-Simon, Saint-Simon qui était un grand admirateur de Rancé avant Chateaubriand, et Saint-Simon qui commanda ce portrait. C'est grâce à Saint-Simon que nous avons un portrait de Rancé. Comme Rancé refusait de poser, Saint-Simon dut ruser pour introduire Hippolyte Rigaud à la trappe auprès de l'abbé. Il prétendit que Rigaud était un officier dévot et bègue, et qu'il voulait rencontrer Rancé. Il avait fait valoir auprès de Rancé que Rigaud ne l'importunerait pas de discours, puisqu'il était bègue, mais qu'il comptait s'en dédommager par ses regards. Donc il le regarderait au lieu de parler, et ensuite, disait Saint-Simon, il rendrait une ressemblance de mémoire. Et ainsi, Rigaud put assister à trois entretiens entre Saint-Simon et Rancé, et observer Rancé, et après chaque entretien, il se précipitait dans la pièce voisine pour faire une ressemblance de mémoire. Et le silence de Rigaud lui facilita la tâche de la mémoration, de la remémoration, dit Saint-Simon, tandis que Rancé témoigna sa surprise d'avoir été si longtemps regardé et par une espèce de muet. Mais il ne soupçonna point les raisons de la visite de l'officier bègue. Ce tableau a quelque chose d'étrange, si l'on pense que la tête a justement été rapportée, faite indépendamment du reste du tableau. Le tableau a quelque chose d'étrange, la tête de Rancé paraît mal emmanchée sur son corps, elle semble protubérante, exorbitée du capuchon, comme si le cou était tordu. Et il écrit à son pupitre, où vous le voyez, un crâne est posé à la hauteur de ses yeux. La légende voudrait que cette tête de mort soit celle de Madame de Montbazon, sa maîtresse, la femme qui l'aima et dont la mort fut à l'origine de sa conversion et de sa retraite. Lorsque Rancé arriva à l'hôtel de Montbazon, à l'improviste, la duchesse venait de rendre l'âme et selon le récit d'un certain Larocque cité par Chateaubriand, lorsque voilà le choc de la visite de Rancé à sa maîtresse qui vient de mourir et il l'ignore, il y vit pour premier objet un cercueil qu'il jugea être celui de sa maîtresse en remarquant sa tête toute sanglante qui était par hasard tombée de dessous le drap dont on l'avait couverte avec beaucoup de négligence et qu'on avait détachée du reste du corps afin de gagner la longueur du col et éviter ainsi de faire un nouveau cercueil qui fût plus long que celui dont on se servait. Cette histoire paraît très étrange et elle est évidemment macabre. Cette histoire d'un cercueil trop court qui avait imposé de couper la tête de Madame de Montbazon pour l'y faire entrer. Elle paraît improbable et étonnante. Saint-Simon dit « Il n'y a rien de vrai en cela », puisque la légende courait déjà du temps de Saint-Simon, donc après la mort, du vivant de Rancé, puisque Saint-Simon écrit qu'il a demandé franchement le fait à Rancé. Et que Rancé lui a dit que la tête de mort qui était devant lui n'était pas la tête de Madame de Montbazon et que la tête de Madame de Montbazon n'avait pas été coupée pour entrer dans le cercueil. Mais Chateaubriand veut croire à cette légende et se montre beaucoup moins tranchant. Saint-Simon est crédule, on pourrait presque dire aujourd'hui conspirationniste. Ainsi, ni ceux qui voici ce qu'il écrit dans la vie de Rancé. Ainsi, ni ceux qui rejettent l'anecdote de Larocque, ni ceux qui l'accueillent n'apportent aucune preuve de leur négation ou de leur affirmation. C'est le raisonnement conspirationniste typique. C'est non seulement ceux qui prétendent que c'est la tête de Madame de Montbazon qui devrait en donner la preuve, mais c'est même ceux qui disent, il n'y a aucune raison pour que ce soit la tête de Montbazon, qui doivent en donner la preuve. Les incrédules n'ont pour eux que l'invraisemblance du cercueil trop court. Il était si facile, en effet, de l'allonger pour donner l'espace nécessaire à cette belle tête qui s'était si souvent inclinée sur le sein de la vie. Mais supposer avec Saint-Simon, comme il l'insinue, que la décollation ne fut que l'œuvre d'une étude anatomique, tout s'expliquera. J'ai beaucoup de mal à trouver cette hypothèse à la lecture de Saint-Simon. Tous les poètes ont adopté la version de la Roque, tous les religieux l'ont repoussée. Et voilà comment Chateaubriand tranche entre les deux hypothèses, la tête coupée de la maîtresse de Rancé, image morbide, digne des plus noirs romans gothiques, inspire Chateaubriand. Qui sont les poètes qui acceptèrent cette légende? C'est lui, en tout cas. Chateaubriand refuse d'y renoncer et y ajoute des variations tout au long de la vie de Rancé. C'est l'un de ces leitmotivs dans la vie de Rancé que cette tête coupée. En voici un des exemples les plus étonnants. Bossuet, qui était un ami de Rancé, ils avaient été élèves au collège ensemble, camarades. Bossuet, transmettant à Rancé les oraisons funèbres de la reine d'Angleterre et de Madame Henriette, lui mande « J'ai laissé l'ordre de vous faire passer deux oraisons funèbres qui, parce qu'elles font voir le néant du monde, peuvent avoir place parmi les livres d'un solitaire et qu'en tout cas, il peut regarder comme deux têtes de mort assez touchantes. » Voilà une étrange comparaison de l'oraison funèbre et de la tête de mort comme memento mori. Mais voici le commentaire de la lettre de Bossuet par Chateaubriand. Bossuet connaissait-il ce que l'on racontait de Madame de Bonmaison? Faisait-il allusion à la tête de cette femme en envoyant deux autres têtes s'entretenir avec elle? Que Rancé aurait posé à côté de la tête de mort sur son pupitre. La sorte de plaisanterie formidable qu'il se permet, comme si Bossuet pouvait plaisanter de la sorte, ne semble-t-elle pas avoir des rapports avec la légèreté de la première vie de Rancé et la sévérité de sa seconde vie? On prétend qu'on montrait à la trappe la tête de Madame de Montbazon dans la chambre des successeurs de Rancé. Je ne l'ai malheureusement pas vue la semaine dernière, mais voilà, me semble-t-il, un bel exemple de ce sublime sénile, ou en tout cas de la délectation sanglante chez Chateaubriand, qui file l'allégorie entamée par Bossuet, qui comparait ses oraisons funèbres à des têtes de mort, c'est-à-dire à des vanité, et qui donne une réalité à cette métaphore, une réalité matérielle qui concrétise l'image, qui se plaît à y voir une allusion de la part de Bossuet à la tête tranchée de Madame de Montbazon, ce qui paraît, sinon très improbable, en tout cas très malséant. Mais Chateaubriand qui qualifie ce mot de plaisanterie formidable de la part de Bossuet, en tout cas, repère une extraordinaire faute de goût tout à fait invraisemblable, mais cela ne suffit pas encore, et Chateaubriand rappelle la légende qui voulait que la tête de la maîtresse de Rancé ait été conservée par lui toute sa vie, à la trappe. Cette tête coupée qui fascine Chateaubriand tout au long de la vie de Rancé, elle réapparaît au moment de la mort du réformateur de la trappe. On présenta le crucifix au mourant, il s'écria « Ô éternité, quel bonheur !» et il embrassa le signe du salut avec la plus vive tendresse. Il baisa la tête de mort qui était au pied de la croix. En remettant cette croix à un moine, il remarqua que celui-ci ne l'imitait pas. Il dit « Pourquoi ne baisez-vous pas la tête de mort ? C'est par elle que finit notre exil et notre misère. » Rancé se souvenait-il de la relique que la tradition disait être placée auprès de lui. Il dit que comme dans son commentaire de la lettre de Bossuet qui accompagnait l'envoi de ses oraisons funèbres en les comparant à des têtes de mort, Chateaubriand n'affirme pas, mais suggère en interrogeant, et ces questions ne cessent de revenir à cette tête coupée de Madame de Montbazon. Les dernières paroles de Rancé, hein, ce sont ses dernières paroles, ses ultima unoissima verba, évoquent encore cette tête. Sur le tableau de Rancé, c'est la tête de Rancé qui paraît découpée et qu'il est effectivement rapportée, accolée ou décollée, puisqu'elle a été cousue sur la toile, en tout cas dans l'original et non dans les copies. Cette tête, vous l'avez compris, c'est le seul élément du portrait qui a été peint sur le motif de mémoire après ses visites du peintre à la trappe et cousu par la suite, où fut rajouté, non sans un certain déséquilibre, le corps, c'est Saint-Simon qui parle, le corps, le bureau et tout le reste. Alors, dans les mémoires de Saint-Simon, il y a beaucoup de réflexions sur l'angle qu'avait choisi Rigaud pour se placer en observant Rancé. C'est donc cet angle qui a dicté la présentation du visage. Donc tout le reste a été ajouté, ainsi par conséquent que le crâne qui est posé devant Rancé. L'ovale du visage est gauchement enchâssé dans le tableau, comme la tête de Madame de Montbazon dans le cercueil, dans une sorte de mise en abîme du memento mori.